Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 1er février 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Tchad, entrée en vigueur de l'accord de fin octobre entre les autorités et les syndicats de la fonction publique.
La Cour pénale internationale tient aujourd'hui une audience sur la remise en liberté suspendue de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo.
Au Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaido a présenté hier son plan pour sortir le pays de la crise économique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU proroge d'un an son embargo sur les livraisons d'armes à la République centrafricaine, mais possible levée de cette mesure avant la fin de l'année.
Pékin dit avoir accepté d'accroître ses importations de produits américains et de coopérer davantage sur la propriété intellectuelle.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Tchad, l'accord entre les autorités et les syndicats de la fonction publique, signé en octobre et qui limite la baisse des primes et indemnités des fonctionnaires, est entré en vigueur en janvier. Des détails avec Irénée Herman-Oumbo.
Les agents de l'État ont commencé à percevoir leur salaire négocié en octobre, a annoncé Brahim Ben Saïd, secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad. Il faut reconnaître que le gouvernement a respecté ses engagements vis-à-vis de ses partenaires sociaux, a renchéri Mohamed Nasraddin Moussa, porte-parole adjoint de la plateforme des syndicats qui a mené les négociations. Il précise qu'il s'agit d'une avancée significative qui, selon lui, contribuera à amener les fonctionnaires à rétablir la confiance perdue envers le gouvernement. L'annonce par le gouvernement de son intention de baisser les primes et indemnités de 50% faites en janvier 2018 avait débouché sur 10 mois de grogne sociale avec 5 mois de grève de la fonction publique. En décembre, la France a annoncé un prêt de 40 millions d'euros pour payer les salaires et pensions. Le pays souffre depuis 2015 de la baisse des cours du pétrole et avait mis en place des mesures d'austérité sévères. À la suite d'un programme avec le FMI pour un financement de 312,1 millions de dollars sur 3 ans, l'État tchadien devait réduire la masse salariale.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité une résolution renouvelant pour un an l'embargo sur les armes imposé à la Centrafrique tout en traçant la voie vers une possible levée de cette mesure avant la fin de l'année. Pour la première fois, le Conseil a parlé de son intention de revoir d'ici au 30 septembre l'embargo sur la base d'une évaluation des progrès réalisés en matière sécuritaire dans le pays. La France, qui a rédigé la résolution, assure entendre les demandes répétées de Bangui pour la fin de cet embargo, et ce pour mieux lutter contre les groupes armés contrôlant la majeure partie du pays.
La Cour pénale internationale tient ce vendredi une audience sur la demande du procureur de maintenir en détention l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, dont la mise en liberté a été suspendue malgré son acquittement il y a plus de 2 semaines. Jugé pour des accusations de crimes contre l'humanité commis entre 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, ont été acquittés le 15 janvier en première instance.
Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a nommé hier Mamadou Diop nouveau ministre des Finances en remplacement de Assoumi Massoudou qui occupait ce poste depuis 2016. C'est ce qu'a annoncé la télévision d'État citant un communiqué du gouvernement qui ne précise pas les raisons du remplacement de M. Massoudou, un homme de confiance du président nigérien. Monsieur Diop est un ex-cadre de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCAO, et ne faisait pas partie de l'équipe gouvernementale.
En Guinée-Bissau, les journalistes des médias publics sont en grève pour exiger le paiement de leur salaire et la fin de la censure. Et ce, alors que la campagne pour les législatives du mois prochain doit commencer le 16 février. Le point avec Ekia Badou.
Cette grève entamée lundi s'est poursuivie hier et concerne le journal gouvernemental Nopincha, la radio-télévision publique et l'agence nationale de presse. Le syndicat national des journalistes et techniciens de la communication exige le paiement de 2 mois d'arriérés de salaire plus un reliquat de 4 mois après l'augmentation accordée en septembre ainsi que de meilleures conditions de travail. À ces revendications salariales s'ajoutent celles des journalistes de la télévision publique qui réclament la fin du favoritisme accordé à un parti, a déclaré Domingos Thiago Gomes, un des responsables. Il a dénoncé une couverture en faveur des alliés du président José Mario Vaz et du Parti de la Rénovation Sociale, dont le ministre de la Communication Sociale est membre. La campagne pour les législatives du 10 mars doit démarrer le 16 février. Ces élections doivent permettre de sortir de la crise que traverse le pays depuis août 2015.
En Ouganda, les autorités ont annoncé leur intention de demander au Mozambique de lui livrer 6 islamistes ougandais présumés afin de les poursuivre dans leur propre pays. Raissa Gironda.
L'Ouganda veut l'extradition de 6 islamistes présumés. Nous travaillons avec le gouvernement du Mozambique et nous comprenons qu'ils ont arrêté un certain nombre de suspects, a déclaré Fred Enanga, le porte-parole de la police ougandaise. Maputo a indiqué mardi avoir arrêté 3 Ougandais qui sont présentés comme des chefs de djihadistes semant la terreur depuis plus d'un an dans la région de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique. Selon M. Enanga, les 3 autres Ougandais que Kampala contre-réclamait étaient déjà détenus par les autorités mozambicaines. Les 6 détenus sont poursuivis par la justice ougandaise et mozambicaine pour des crimes sur les 2 territoires. Un des suspects se nomme Abdulrahman Faisal. Il serait l'imam de la mosquée Oussafi qui, selon la police ougandaise, était un centre de radicalisation. En avril 2018, le ministre ougandais de l'Intérieur, Gégé Odong, avait indiqué que la police y avait trouvé des armes, ainsi que 100 femmes et enfants retenus contre leur volonté.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Venezuela, le président par intérim autoproclamé, Juan Guaido, a présenté hier son plan économique pour sortir le pays de la crise, fort du soutien de Washington et du Parlement européen qui accentue la pression sur le gouvernement de Nicolas Maduro. Jacques Aristide.
Les eurodéputés ont reconnu Juan Guaido comme président par intérim légitime et ont appelé tous les pays de l'UE à faire de même. L'opposition vénézuélienne exige la mise en place d'un gouvernement de transition et l'organisation d'élections générales libres. Juan Guaido, âgé de 35 ans, a écarté l'hypothèse d'une guerre civile dans son pays. Depuis le début des mobilisations le 21 janvier dernier, une quarantaine de personnes ont été tuées et plus de 850 arrêtés selon l'ONU. Juan Guaido a renouvelé son appel à la toute-puissante armée vénézuélienne à ne pas reconnaître Nicolas Maduro comme président. Parallèlement, la pression des États-Unis se fait chaque jour plus insistante via des sanctions financières pour asphyxier le gouvernement et des mises en garde répétées.
Pékin a accepté d'accroître ses importations de produits américains et de coopérer davantage sur la propriété intellectuelle, a annoncé vendredi Chine Nouvelle, après que Donald Trump, le président américain, a fait état d'énormes progrès dans les négociations commerciales. Des avancées importantes sont ressorties des négociations menées par les délégations américaines et chinoises à Washington, avait annoncé un peu plus tôt l'agence qui, citant un communiqué de la délégation chinoise, évoquait des discussions sincères, précises et fructueuses entre les deux parties.
Le président Trump qualifie de perte de temps les pourparlers actuels entre parlementaires des deux parties sur le financement d'un mur à la frontière avec le Mexique. Dans une interview au New York Times, M. Trump a encore laissé entendre qu'il pourrait déclarer une urgence nationale pour pouvoir construire ce mur sans l'approbation du Congrès américain. En l'absence d'un accord entre les négociateurs démocrates et républicains, on pourrait faire face dans moins de 3 semaines à un autre shutdown, c'est-à-dire la fermeture partielle du gouvernement fédéral.
Le nord des États-Unis subit toujours une vague de froid sans précédent qui a fait au moins 10 morts. L'air polaire descendu de l'Arctique a provoqué des coupures d'eau, d'électricité, des perturbations dans les transports et de nombreux accidents de la route. Le point avec Morgan Guiriec.
La plupart des administrations locales, des entreprises et des écoles sont restées fermées hier. La Poste américaine a prolongé la suspension de la distribution de courriers dans plusieurs États. Chicago, troisième ville du pays, a connu mercredi le second jour le plus froid de son histoire. Plus de 1600 vols ont été annulés. La société de chemin de fer Amtrak, qui avait annulé tous ses trains au départ de Chicago, a repris lentement ses activités. Parmi les 10 victimes figure un étudiant de l'université de l'Iowa, âgé de 18 ans, retrouvé sans vie près d'un bâtiment du campus alors qu'il faisait moins 46 degrés Celsius dehors. Les États du Michigan et du Minnesota ont demandé aux habitants de baisser le chauffage pour économiser les réserves de gaz naturel. Un redout est toutefois en vue alors que la masse d'air froid se déplace vers l'est. Selon les services météorologiques, les températures vont lentement remonter. Cependant, à cause du vent glacial, elles devraient rester entre moins 29 et moins 46 degrés Celsius en ressenti dans certaines parties du Midwest.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manira Kiza.
La dette extérieure du Ghana a atteint 18 milliards de dollars. Ce montant représente 10 fois ses exportations nettes. Les secteurs économiques traditionnels, notamment l'or et le cacao, ont généré moins de revenus en devises. Cette situation pourrait à terme peser sur la stabilité macroéconomique. Le gouvernement s'est donné pour ambition de réduire substantiellement sa dette d'ici la fin 2021. Le Nigeria veut construire 19 nouvelles routes dans 11 états du pays pour une longueur totale de 794 kilomètres. Ce nouveau projet est le fruit d'un partenariat public-privé. Six grandes entreprises du pays, dont Dangote Industries Limited, vont financer les travaux. En échange, les principaux investisseurs du projet devront bénéficier des mesures d'allègement fiscal. La Tunisie va construire 2 barrages dans les régions du Kef et Béja, dans le nord-ouest du pays. Ils permettront de mobiliser d'importantes quantités d'eau pluviale pour renforcer les capacités de production agricole et créer ainsi de nouvelles activités économiques et de nouveaux emplois dans les régions concernées. Ce projet coûtera environ 100 millions de dollars, un prêt du Fonds arabe de développement économique et social, FADES.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Renford Kalaba est de retour au TP Mazembe.
Oui, l'international zambien a repris avec le groupe et fera partie des joueurs qui se mettront au vert pour la réception du club africain de Tunis dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Champions. Pour cause de blessure, le capitaine des Corbeaux a raté le dernier match du TP Mazembe face au CS Constantine du côté de l'Algérie où ils ont perdu 3-0. Signalons aussi la réintégration de Jean Kasusula et les renforts de Godé Massengou et Owe Boyanga. Sévèrement battu par le CS Constantine, le club de Lubumbashi s'est vu éjecté de son fauteuil de leader du groupe C. Mazembe est désormais troisième derrière son bourreau et le club africain. Les Corbeaux sont condamnés à bien mieux faire à la maison demain samedi face aux Tunisiens du club africain.
Le mercato hivernal s'est refermé hier.
Oui, et l'international ivoirien Wilfried Boni a été prêté par Swansea pour 6 mois au club Qatari d'Al Arabi. En fin de contrat en juin prochain, l'éléphant ne devrait plus réapparaître sous le maillot des Swans. Prêté à Majorque par Retafe, l'international congolais de 20 ans, Mervey Ndoki, a tapé dans l'œil du FC Barcelone qui a emprunté le Diable Rouge pour sa réserve avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Le meneur de jeu franco-algérien Riyad Boudbouz, sous contrat avec le Betis Séville jusqu'en 2021, a lui été prêté pour le reste de la saison au Celta Vigo. C'est aussi fait pour Mbaye Diang, actuel meilleur buteur du championnat turc avec 20 buts en 17 matchs. L'international sénégalais de 27 ans a quitté Kazim Pasa pour s'engager en faveur de Galatasaray. Il est question d'un transfert à 12 millions d'euros et d'un contrat de 4 ans et demi rémunéré à hauteur de 2,3 millions d'euros par saison pour l'ancien joueur de la Juventus Turin.
Pour sa part, Peter Crouch a rejoint Burnley.
Oui, l'attaquant de Stoke City en deuxième division anglaise s'est engagé à 38 ans avec Burnley jusqu'à la fin de la saison, d'après le club actuel 17e de Premier League. Peter Crouch, sélectionné 42 fois avec l'Angleterre, a disputé 729 matchs en club, marquant 205 buts pour Aston Villa, Southampton, Liverpool, Portsmouth, Tottenham et Stoke. Le grand attaquant de 2m1 détient le record de Premier League de buts marqués de la tête avec 53 réalisations. L'international gallois Sam Vok a lui fait le chemin inverse et signé pour les Potters. On finit avec du basketball avec vous Idrissa. Les résultats de la nuit dernière en NBA.
Détroit et Dallas 93-89, Orlando et Indiana 107-100, Milwaukee et Toronto 105-92, San Antonio et Brooklyn 117-114.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Nigeria, la campagne présidentielle pour le scrutin du 16 février bat son plein. De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons donc maintenant à nos dossiers du jour. L'ancien vice-président Atiku Abubakar, candidat du principal parti d'opposition, le PDP, contre le président Muhammadu Buhari, a laissé entendre qu'il accorderait une amnistie à ceux qui vont accepter de rendre les fonds publics détournés, une proposition qui défrait la chronique dans le pays. Le candidat à la présidentielle de ce mois a également mentionné la lenteur du système judiciaire nigérian comme frein à la lutte contre la corruption. Pour parler de ces enjeux de la campagne, John Linden a joint le professeur Amosu Tundunu de l'Université de l'État de Lagos au Nigeria.
D'abord, il y a l'enjeu économique. Quoi qu'on en dise, il y a de plus en plus de Nigériens qui n'arrivent même plus à manger comme il faut. Et que la morosité, ça a gagné pratiquement tout le pays. Quand il est arrivé au pouvoir, tout le monde croyait que Buhari allait s'adresser aux questions les plus importantes. D'abord, le volet économique, mais on constate que les choses ne sont pas aussi formidables qu'on l'avait promis. Et puis, il y a la corruption. La corruption qui se fait, pour ainsi dire, à deux niveaux. Parce que quand vous passez du côté du pouvoir, alors vous n'êtes plus corrompu. Alors qu'on sait que ceux qui sont actuellement au pouvoir, c'est un mélange de ceux qui étaient de l'autre côté, c'est-à-dire de l'ancien parti au pouvoir, le PDP, ensuite le nouveau parti au gouvernement, c'est-à-dire l'AFC.
Vous parliez tout à l'heure de la corruption. Justement, le principal challenger de Muhammadu Buhari, donc Atiku Abubakar, propose une amnistie à tous ceux qui pourraient être accusés de corruption et qui peuvent rembourser ce qu'ils ont volé. Qu'est-ce que vous pensez de cette promesse?
Franchement, moi, je ne vois pas comment on pourrait récupérer tout l'argent que ces gens-là ont engrangé. Il est vrai qu'il y a eu certaines condamnations, mais dans l'ensemble, la grande majorité de ceux qui ont volé de l'argent depuis 20-30 dernières années, ils sont là et ils ne leur arrivent rien du tout. La preuve, c'est que même les jeunes commencent à se persuader que la corruption, c'est normal, c'est même légitime. Et dans ces conditions, moi, je ne vois pas pourquoi on aurait l'idée de voter pour ça. Que ce soit pour Abubakar, Atiku ou bien pour l'actuel chef.
Alors, vous semblez dire que Muhammadu Buhari a fait des promesses qu'il n'a visiblement pas tenues, selon vous. Qu'est-ce que Atiku Abubakar, lui, peut apporter de plus et qui puisse lui permettre de remporter cette élection?
Non, moi j'ai essayé d'étudier son programme, mais le programme, franchement, il y a beaucoup de promesses qui ne sauraient jamais tenir. Parce que, d'une part, il faut s'entourer de ceux qui n'ont pas une très bonne réputation et que même lui aussi, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui clochent. Donc, pour un pays qui a besoin de se tourner résolument vers l'avenir, moi je ne vois pas comment ces gens-là seraient appelés à diriger notre pauvre pays.
Le professeur Amosu Tundunu de l'Université de l'État de Lagos au Nigeria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Tchad, la question du serment confessionnel instauré dans la nouvelle constitution continue d'alimenter les débats. Le chef de l'Église catholique tchadienne sort de son silence et demande aux chrétiens de respecter leurs convictions religieuses. De N'Djamena, André Kotmadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point.
Abusivement, on a dit que toutes les autorités religieuses ont été d'accord pour le faire. C'est faux. La proposition médiane que les chrétiens ont faite pour cette loi n'a pas été tenue en compte.
Monseigneur Edmond Djitangar, archevêque métropolitain de N'Djamena, donna la position officielle de l'Église catholique face au serment confessionnel qui divise les Tchadiens. Car toute personne nommée par décret à de hautes fonctions de l'État qui refuse de prêter serment parce que sa conviction religieuse l'interdit n'a pas sa place dans la gestion de la chose publique sous la 4e République. Pour l'archevêque, ce serment confessionnel et anti-biblique.
Je voudrais que les chrétiens soient libres dans leur conscience. L'essentiel, c'est que vous vous engagez devant Dieu au fond de votre conscience et devant le bien commun. C'est ça notre souci. Donc je demande à tous les chrétiens qui ont une responsabilité, quelle que soit, qu'on les écarte parce qu'ils n'ont pas fait le serment, qu'ils montrent qu'ils sont des chrétiens. Même s'ils sont subalternes, ils doivent le manifester.
Maître Nadji Madou, membre de la majorité présidentielle, l'un des géniteurs de la nouvelle constitution, refute les allégations selon lesquelles le serment confessionnel n'a pas sa place dans une constitution d'un État laïque. Pour lui, le principe de laïcité dont l'archevêque fait allusion est une colonisation française qui n'a rien à voir avec l'histoire politique au Tchad.
Est-ce qu'on peut financer la construction d'une basilique ou la réfection d'une cathédrale sur le fond de l'État? Doit-on occuper les routes pour des prières? Les vendredis, vous regardez, les routes sont occupées. Est-ce que c'est ça un État laïque? Voilà autant de comportements qui ont violé le principe sacro-saint en France. Je dis bien qu'il n'a rien à voir avec notre histoire politique. Que l'évêque ait dit leur position n'a pas été adoptée, justement, il est en train de violer le principe de la laïcité. Pour faire une constitution d'un État laïque, on n'a pas à demander à une corporation de venir donner sa position. Le principe du serment est biblique, il est théologique, il est canonique. Qu'on ne vienne pas me raconter de n'importe quoi.
Le président du conseil exécutif des œuvres et missions de l'église évangélique Maranatha Tchad, Dr Sitak Yumbatina Beni, par ailleurs enseignant-chercheur, balaye d'un revers de main ses allégations. Il estime que le message de l'archevêque de N'Djamena concerne toute la communauté chrétienne du monde, qu'on ne s'amuse pas avec Dieu.
Quand Jésus vous dit, moi je vous dis de ne pas jurer, on ne jure pas, point la ligne. On ne discute pas ces choses-là, c'est pas de la politique, pas à travers le serment confessionnel, mais on exclut une bonne partie de la population tchadienne qui n'est ni chrétienne, qui n'est ni musulmane. Or, la République n'a pas à diviser ses propres fils. C'est une dérive ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Docteur Sitak Yumbatina Beni de préciser que c'est un débat spirituel qui va rester dans la conscience de quelques rares chrétiens qui sont dans le gouvernement. André Kodmadingar N'Djamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Côte d'Ivoire, retour au pays pour une 60aine d'Ivoiriens qui avaient trouvé refuge au Ghana à la suite de la crise post-électorale de 2010-2011. Ces réfugiés ont regagné Abidjan ce jeudi. Témoin de ce retour, notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Ils sont tous des partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo. À la chute de ce dernier en avril 2011, ils avaient été contraints de fuir la Côte d'Ivoire pour le Ghana voisin. Aujourd'hui, ils sont de retour au pays et heureux parmi eux. Des anciens ministres, Émile Guiré-Ourlou.
Après 8 années d'absence, je suis content de revenir dans mon pays. La raison principale est que le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Le président Laurent Gbagbo étant acquitté, nous avons estimé qu'il n'y avait plus de raison pour nous de rester en exil.
Lazare Koffi-Koffi, autre ancien ministre, ne cache pas sa joie de retrouver la Côte d'Ivoire.
Nous revenons vraiment en homme libre. Nous revenons avec toute notre dignité. Nous revenons avec toute notre personnalité. Et quand nous voyons tout ce peuple qui nous accueille, nous sommes vraiment heureux. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous retrouvons les frères et les sœurs de notre pays.
À côté de ces personnalités, il y a aussi des anonymes. Emmanuel Gobeya, ancien fonctionnaire.
J'ai décidé de rentrer parce que le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Voilà pourquoi moi, j'ai décidé de rentrer. On attend que la réconciliation soit une vraie réconciliation.
Un retour facilité par le gouvernement ivoirien avec l'appui du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Mohamed Touré, représentant du HCR en Côte d'Ivoire.
Il y a tout un ensemble de mécanismes qui ont été mis en place pour faciliter le rapatriement de ces réfugiés. Tout d'abord, il y a un accord tripartite, un accord juridique, un cadre juridique dans lequel l'État de Côte d'Ivoire s'engage à protéger et à respecter le retour de ces réfugiés. Le pays hôte permet aussi à ces réfugiés de retourner. Bien entendu, tout cela se fait sous les auspices du HCR, à savoir que la protection est continue à être donnée à ces réfugiés-là.
Pour le gouvernement ivoirien, le retour de ces réfugiés est une preuve de plus que la Côte d'Ivoire est engagée vers la réconciliation et la paix. Minata Diéket du ministère ivoirien des Affaires étrangères.
C'est un grand pas vers la réconciliation de voir que ces personnes qui sont restées malheureusement pendant 8 ans au Ghana ont pris aujourd'hui la décision de rentrer, ont saisi la main tendue du chef de l'État. La loi d'amnistie, c'est vraiment le coup d'accélérateur qui a pu justifier ce retour et que nous croyons être le début d'un vaste mouvement de retour des quelques réfugiés ivoiriens qui sont encore en exil. On en a encore 23 426 dans la sous-région.
Selon les autorités ivoiriennes, 97% des 327 000 Ivoiriens qui avaient fui les violences post-électorales de 2010-2011 ont regagné le pays. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Une grande partie des États-Unis subit un froid glacial. Certaines régions du Midwest connaissent des températures extrêmes qui ont forcé la suspension de certains services de base, perturbé le travail et les horaires scolaires. Il est conseillé aux citoyens de rester au chaud. Un reportage de Zlatika Hawk, repris ici par Gabi Dorsil.
À Minneapolis, dans le Minnesota, il règne un froid polaire, accentué par un vent glacial. La température est tombée à moins de 20 degrés Celsius. Pour autant, les rues ne sont pas entièrement désertes. Calvin Wimerscotch, un habitant de Minneapolis.
C'est vraiment glacial. Je n'ai jamais vécu un froid pareil. Mais vous savez, tout va bien. Ça fait partie de la vie au Minnesota.
Jusqu'à la fin de la semaine, plus de 200 millions de personnes, soit près de 70% des habitants des États-Unis, vont connaître des températures égales à ou en dessous de 0 degrés Celsius. Quelques 25 millions de personnes dans le nord-est seront confrontées à des risques d'engelure, cette maladie où les mains, les pieds, le nez ou les oreilles sont exposés au froid, s'enflent et font mal. Joe Hagsett, le maire d'Indianapolis.
Cela signifie que les températures réelles combinées au vent glacial peuvent atteindre des niveaux extraordinairement dangereux.
Le maire d'Indianapolis et d'autres responsables du Midwest appellent donc à la prudence.
Si vous devez être dehors, couvrez-vous. Sachez que les engelures et l'hypothermie sont de gros risques.
Les responsables de santé exhortent aussi les voyageurs à se préparer aux urgences. Dr. Tom Waters, d'un hôpital de Cleveland, dans l'Ohio.
Nous entendons toujours des histoires de personnes coincées dans leur voiture et nous pensons que cela ne peut pas nous arriver. Mais en hiver, c'est bon de s'assurer que votre voiture contient du matériel de sécurité.
Les gouverneurs de l'Illinois, du Michigan et du Wisconsin ont déclaré l'état d'urgence. Certains districts ont fermé les écoles et cessé la distribution du courrier. Le ramassage des ordures est interrompu, tout comme le transport et d'autres services publics. Les équipes de maintenance font de leur mieux pour répondre aux appels d'urgence. Brian Peckinpah, du service des eaux de Détroit, dans le Michigan.
Actuellement, nous avons 26 ruptures de conduite d'eau dans la ville de Détroit. Chaque fois qu'il y a des changements extrêmes de température, chaude ou froide, l'eau se contracte dans la conduite principale, ce qui entraîne des ruptures.
Les météorologues expliquent ce temps par une perturbation du vortex polaire, ce tourbillon nuageux qui couvre le pôle Nord. Un souffle d'air chaud venu d'Afrique du Nord a propulsé une partie de l'air glacial sur toute l'Amérique du Nord, jusqu'en Floride.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur « Apprenez l'anglais » pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons des maladies de la prostate.
La prostate est une glande qui fait partie des appareils reproducteurs et urinaires de l'homme. Parmi ces maladies les plus redoutables, il y a le cancer qui peut entraîner l'infertilité du malade.
Pour en parler, nous recevrons le professeur Ali Tembélé, urologue au Mali. Il nous dira comment faire pour réduire les risques d'attraper les maladies de la prostate.
Nous écouterons le témoignage de Félix, chez qui il a été diagnostiqué un cancer de la prostate. Il nous parlera de ses soins et des conséquences de la maladie dans sa vie.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.